Bonjour et bienvenue en Pays de Carcassonne. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir de découvrir Christophe Klein, formateur tourisme à l'AFPA de Carcassonne. Bonjour Christophe.
Bonjour Valérie.
Alors tout d'abord, même si l'AFPA est très connu de nos auditeurs, j'aimerais que vous nous rappeliez quand même les traits principaux de cet organisme.
Alors l'AFPA existe depuis 60 ans maintenant. C'est un organisme donc de formation de référence en France, nationale, depuis 60 ans, qui est né à l'issue de la dernière guerre mondiale, lorsqu'il fallait reconstruire la France. Donc voilà, donc les premiers étaient des professionnels du bâtiment. Et l'AFPA a évolué comme ça depuis. Aujourd'hui, on forme particulièrement ici à Carcassonne bâtiment, gros œuvres, seconde œuvre, secrétariat comptabilité, tourisme bien sûr, et ADVF, donc service aux particuliers.
D'accord. Et donc vous êtes formateur donc en tourisme. Vous nous expliquez un petit peu, vous formez ces stagiaires donc pour quel métier?
Alors moi je conduis la formation technicien d'accueil touristique avec une option forte qui est l'accompagnement. En fait, je forme des guides accompagnateurs de voyage, mais également des gens qui se destinent à travailler sur des excursions, donc auprès des villages clubs, hôtels clubs, camping bien sûr, et des guides locaux. Beaucoup ensuite rebondissent pour travailler sur des sites touristiques remarquables. Donc voilà, mais le gros de la formation, c'est l'accompagnement de voyage.
D'accord. Donc, et la formation dure combien de temps?
C'est une formation qui dure 7 mois, une formation qualifiante, à l'issue de laquelle il y a une certification qui est donc qui est donnée par le ministère du Travail, c'est le ministère de l'Emploi qui se charge de ça. Mm-hmm. Formation qualifiante, 7 mois, voilà, et bien un très bon placement. On a environ 70% de placement sur l'accompagnement et 95% de réussite à l'examen. Donc on les accompagne vraiment jusqu'au bout. Voilà, maintenant le placement qu'on a est forcément très saisonnier, comme tous les métiers du tourisme.
Oui, moins dans la région, oui.
Voilà. Donc il est évident que quand on prend contact avec nos stagiaires 6 mois après, si ça tombe au mois de janvier, beaucoup sont au chômage.
D'accord.
Ça tombe à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, beaucoup travaillent.
D'accord.
Donc voilà, en moyenne, on a 70% de placement. Pérenne.
Et dans les stagiaires, est-ce que ce sont des Audois ou est-ce que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs?
Alors on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. En moyenne sur 10 stagiaires, en termes de pourcentage, je dois avoir à peu près 70% de national.
D'accord, parce qu'il n'y a pas d'autres, ou il y a peu de formations en tourisme sur le reste de la France à l'AFPA?
Alors voilà, cette formation-là, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Carcassonne reste, je dirais, la formation, le centre de formation phare pour le tourisme. Et voilà, donc beaucoup de formations ont rebondi sur d'autres, mais l'accompagnement, guide accompagnateur, il n'y en est que 4 ou 5 en France maintenant à le faire.
Ah oui, ce qui est quand même, ce qui est peu. Et puis bon, il faut dire aussi que le centre AFPA a de l'hébergement, donc c'est pas le cas de tous les organismes de formation, loin de là.
Absolument.
Et donc c'est vrai aussi que ça pousse les gens à venir plutôt à l'AFPA que dans un autre organisme, déjà aussi pour cette raison-là.
Tout à fait.
Et puis en plus de ça, vous êtes formateur, mais vous êtes aussi un ancien professionnel, j'imagine.
Bien sûr, puisque la force de l'AFPA, c'est de tous les formateurs à l'AFPA sont tous des anciens professionnels des métiers qu'ils enseignent.
D'accord.
Donc pour ma part, j'ai été effectivement 9 ans guide accompagnateur, donc grand tourisme sur l'international. Donc c'est vrai que c'est un métier que j'ai fait avec passion, parce que ce sont des métiers passion.
Oui, donc, comme tous les métiers du tourisme,
comme
très souvent.
Tourisme, absolument, tout à fait. Donc cette passion que j'essaie de faire passer à mes stagiaires, et c'est vrai que voilà, pendant 9 ans, donc j'ai voyagé dans l'Europe principalement.
D'accord. En autobus ou...
Alors beaucoup bien sûr en autocar, ce sont des voyages organisés, ce sont la plupart des emplois qu'on peut trouver, c'est sûr, les autocaristes, mais aussi tour opérateur, mais pas essentiellement. Des fois on avait ce qu'on appelle des avions-avions, donc on partait avec nos groupes en avion, et puis sur place on avait un réceptif, un car. Mais dans tous les cas, oui, la plupart, le gros du travail se fait dans un autocar.
D'accord. Et dans votre formation, donc, quelles sont les actions concrètes qu'ils apprennent à mener pour être un guide accompagnateur?
Alors, beaucoup de terrain, bien sûr, on a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du face-à-face, c'est-à-dire qu'on est en salle, partie théorie, mais moi, je mets en place pas mal de sorties, c'est-à-dire qu'ils ont, dans le cadre de cette formation, des produits touristiques à mettre en place, excursion, demi-journée ou journée, donc ils montent ces produits, et après, ils les font. Donc, c'est de l'accompagnement, c'est du guidage, donc ils sont responsables de la logistique, de tout ce qui est médiation culturelle, c'est très important. On en a beaucoup. Et puis, bien sûr, tout ce qui est animation, contact, être avec les gens, faire attention à que tout se déroule bien. C'est le cœur de notre métier. C'est de faire, je dirais, tapis rouge pour les clientèles au fur et à mesure que le voyage se déroule. Donc, beaucoup de terrain, excursion. On fait également un voyage d'une semaine qu'on appelle le Format Tour. Donc, cette année, on part sur Barcelone, on fait la Catalogne. L'année dernière, on a été dans le Bordelais, sur la côte Aquitaine. Voilà, donc chaque formation, on a un voyage d'entre 5 et 7 jours.
D'accord. Donc ils doivent monter entièrement, voilà, de la création jusqu'à l'accompagnement.
Tout à fait.
D'accord. Et en plus, j'imagine qu'il y a de la formation aussi aux langues, parce que ça paraît incontournable.
Alors c'est une formation bilingue, c'est important de le souligner effectivement. Il y a 160 heures d'anglais sur la formation de 7 mois. D'accord. Donc c'est relativement intensif. On a une formatrice en anglais qui est une anglaise d'origine.
Ah ça c'est génial.
Qui était, enfin elle a pas depuis fort longtemps maintenant et qui est excellente. Donc parce que là effectivement de moyens, de matériel, on a un labo de langue.
Voilà, parce que je pense que le labo est encore peu connu, peut-être même des prestataires touristiques. Donc c'est vrai qu'il y a, moi je le connais un petit peu, il y a un super labo de langue.
Absolument.
Avec en plus effectivement une formatrice anglaise et puis tout un coin de revues entièrement en anglaise, de revues touristiques, absolument, etc. Enfin voilà, donc c'est effectivement aussi une très bonne formation en anglais pour les gens qui voudraient ne faire que ça, se perfectionner. C'est effectivement un beau lieu de formation.
Et si je peux me permettre de rajouter également, oui, les sorties terrain qu'on fait, les commentaires qui préparent le font une partie en anglais. Hein, donc je mets l'accent vraiment sur une formation bilingue. Avec également de rajouter qu'on a, disons, 70 heures d'espagnol.
D'accord.
Proximité avec l'Espagne, hein, j'ai jugé plus efficace. Hein, donc de l'espagnol, de l'anglais intensif.
D'accord. Et donc ils ont des stages pratiques également chez les prestataires tout au long de la formation.
Tout à fait. Donc ils ont 6 semaines de stage en tout, qu'on a divisé en 2 fois, en 2 temps, hein, mm-hmm, parce qu'on a estimé qu'effectivement c'était peut-être plus intéressant pour eux de voir 2 entreprises différentes. Mm-hmm. Donc ces stages en entreprise de 3 semaines chacun sont l'excellent tremplin pour ensuite l'emploi. C'est généralement à la suite d'un stage en entreprise qui trouve du travail.
Et vous avez un réseau, j'imagine, de professionnels déjà au doigt, bon, certainement aussi nationaux, puisque les gens viennent d'ailleurs, qui vous prennent vos stagiaires. Donc c'est assez connu, j'imagine, sur le terrain professionnel.
Bien sûr. C'est vrai que maintenant, on est repéré, je dirais, le terme. C'est-à-dire qu'on travaille avec pas mal de prestataires ici dans l'Aude, et puis aussi quelques-uns à l'étranger, mais beaucoup moins. Je mets vraiment l'accent sur le réseau ici, au doigt.
D'accord. Bah c'est bien, pour nos prestataires. Et puis il y a aussi, on va quand même en parler un petit peu, il y a aussi une autre formation tourisme à l'AFPA avec Isabelle Gonsalvo, qui elle forme...
Alors elle forme, c'est sa formation, l'intitulée c'est conseiller en séjour et voyage.
D'accord.
Elle forme des gens qui eux se destinent à travailler en agence de voyage, ou sur des plateaux d'affaires, ou bien sur des centres de téléphonie. Donc voilà, ça c'est vraiment agence de voyage pur, c'est commercial en fait. Voilà, là elle forme vraiment des commerciaux.
Donc la vente.
La vente.
En premier lieu.
Absolument.
Un numéro de téléphone, si nos auditeurs voulaient vous appeler pour avoir des renseignements.
Mais bien sûr, avec plaisir. Donc on peut me joindre 04 68 47 72 92.
Un site internet.
AFPA.fr.
D'accord. Et puis à partir de là, on peut aller sur...
Et à partir de là, voilà, Languedoc-Roussillon, Carcassonne, vous avez tout ce qui se passe ici à Carcassonne, à l'AFPA.
Bah c'est parfait. Merci Christophe. Chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale avec Schubert. Et puis on se retrouve après pour les coups de cœur touristiques de Christophe. A tout de suite. Et bien après cette douceur, on retrouve Christophe Klein, formateur en tourisme à l'AFPA de Carcassonne. Donc il nous a parlé de ses formations de guide accompagnateur. Et donc là, nous allons partir sur ses coups de cœur touristiques, puisque Christophe a beaucoup voyagé. Donc coup de cœur touristique, Christophe, dans le monde, hormis la France.
Alors le coup de cœur touristique dans le monde, je dirais Séville. L'Andalousie d'une manière générale, mais Séville en particulier.
Ah, alors pourquoi Séville ? Il y a certainement plein de raisons d'ailleurs.
Bien sûr, tout à fait. Bon, d'abord, c'est une ville, une architecture qui est remarquable, hein, notamment sa cathédrale, la fameuse Giralda, mais surtout c'est l'atmosphère de Séville qui m'a séduit. Le rythme de vie des Andalous, hein, dans cette ville qui est une capitale, une très grande ville, on a l'impression de vivre comme à la campagne. Voilà, les gens sont extrêmement détendus. Une anecdote, quand vers 10h ils font la pause pour aller manger quelques tapas, boire un café, ils garent leur voiture en double fil, voire en triple fil, et ils laissent les clés dessus. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut sortir, ben il prend la clé de la voiture, il prend la voiture, il la pousse et voilà. Ça se fait d'une manière. J'étais assez étonné.
Ça c'est étonnant. Oui.
Donc c'est l'esprit, voilà, l'esprit de cette ville, les Sévillans, et puis la musique aussi, bien sûr, c'est le flamenco, c'est des musiciens dans toutes les rues, c'est le quartier, c'est chaleureux, c'est sympathique comme tout, j'aime beaucoup cette ville.
En plus c'est facile pour y aller parce qu'on a un Toulouse-Séville, donc c'est vrai que c'est une destination à laquelle il faut penser pour, ne serait-ce que pour des grands week-ends, ça peut être bien, bien des paysans, puis d'aller voir un peu une douceur de vivre, un peu au ralenti, c'est bien ça. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon.
Alors, en France, Languedoc-Roussillon, j'ai un coup de cœur pour l'Alsace. Hein, et plus précisément, côté de Colmar, Ribeauvillé, un petit village qui n'est pas loin de Colmar. Et l'Alsace, hein, voilà, c'est aussi une atmosphère particulière. Surtout, c'est une nature préservée.
Alors, quand on parle d'Alsace, on voit de suite les marchés de Noël. En plus, là, on en sort. Hein, donc, voilà, on a beaucoup envie, on a envie d'aller en Alsace pour ces marchés. Mais est-ce que vous y êtes allé dans une autre période ? Est-ce que c'est intéressant aussi d'y aller en automne, au printemps, à l'été ?
À l'été, oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y a pas que le marché de Noël en Alsace. Hein.
Voilà. Mais voilà, je voulais vous l'entendre dire, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu le cliché Alsace, marché de Noël. Mais bon.
Et puis les Alsaciennes avec leurs
oui,
leur
grandes oreilles,
voilà, c'est un peu les clichés. Bon, c'est vrai que toutes les régions ont des clichés. Non, moi l'Alsace c'était, encore une fois l'architecture alsacienne, c'est vrai que c'est joli comme tout. La petite Venise à Strasbourg, c'est remarquable. Mais comme je vous le disais, c'est la nature. Et de faire une randonnée, donc j'ai fait plusieurs randonnées en Alsace. Mmh. Et c'est une nature qui est préservée, qui est sauvage, qui est absolument magnifique. Ce sont des randonnées qui ne sont pas très difficiles, très compliquées, parce que ce n'est pas très
plutôt
montagneux.
Plutôt randonnée familiale, oui.
Voilà, c'est très vallonné, mais bon, s'il n'y a pas de montagne, la forêt noire est un lieu magique. Mmh. Voilà, donc l'Alsace m'a...
Oui, vous a bien plu sur ce côté plus, nature. Puis bon, il y a quand même du patrimoine, il y a de très beaux petits villages, j'imagine. Donc,
et une gastronomie remarquable également.
Ah ben ça, n'en parlons même pas. Ça fait aussi partie cliché de l'Alsace.
Du coup de cœur également. Voilà.
Alors, coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
Alors, moi, tu m'avais parlé du parc régional au Languedoc. Alors, voilà. on revient là sur de la randonnée.
On revient sur la pleine nature, tout à fait.
Toujours.
Absolument. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que le parc régional du Languedoc, bah, pareil. Bon, si il est parc régional, d'abord, c'est qu'il est protégé. Donc, c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique. Bon, un petit peu plus difficile en randonnée parce qu'il y a plus de montagnes, c'est plus chaotique, on dira. Mais c'est un endroit, effectivement, magnifiquement préservé.
Et puis bon, je crois qu'il y a aussi tout niveau hein, sur le parc du Haut-Languedoc. Hein, donc bien après, sûr. Il faut voir selon son niveau, si c'est plutôt une randonnée familiale ou de débutant. Ouais. Ou voilà. Il y a plusieurs niveaux de toute façon dans la randonnée. Ouais. Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais.
Dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais, mon coup de cœur va sans hésiter, je crois, au moulin de Brousse.
Alors ça, c'est en pays carcassonnais, on n'y est pas encore.
Ah,
là, c'est coup de cœur touristique. Dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais. Alors là, tu m'avais parlé de Saint-Paul-de-Fenouillet, la route dans la haute vallée de l'Aude.
Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est pareil, une promenade magnifique. Alors qu'on fait en voiture, mais qu'on peut faire à pied également. Donc c'est la route.
Alors tu pars d'où
De Limoux. Route de Limoux passe à Limoux, bien sûr. Alette, Onfil, Couizac, Quillan. On continue déjà Saint-Dié et Perpignan et on rejoint Perpignan par cette route-là. Donc on passe par le col de la Pierre de Lys. Hein, qui est une route taillée directement dans la montagne, donc c'est assez impressionnant. Il y a un endroit qu'on appelle le trou du curé également, donc c'est un tunnel.
Qu'est-ce que c'est que ça, le trou du curé?
C'est un tunnel pour que la route puisse continuer, bien sûr, à longer la rivière, on longe l'Aude. Mais l'Aude sauvage, hein, l'Aude, je dirais, rafting. L'Aude, oui. Donc, et pour que cette route puisse continuer, ben, on a fallu creuser dans la montagne un trou. Et on voit vraiment que c'est, passe-moi l'expression, taillé à la hache. Voilà, donc c'est une ancienne route qui était faite au tout début du siècle et qui rejoint donc l'autre vallée, donc côté de Perpignan.
C'est par là qu'on arrive par les gorges de Galamus.
Alors, gorge de Galamus également, c'est pas loin, hein, donc c'est pas vraiment cette route-là, c'est juste à côté, effectivement. Donc on peut faire un crochet par Galamus.
Ah oui, ça, il ne faut pas rater ça.
Il ne faut pas rater ça.
C'est fabuleux.
S'arrêter à l'ermitage Saint-Antoine, aussi à voir, hein, et puis, et voilà. Et pareil, je suis assez séduit par ce côté préservé. Sauvage, une faune, une flore, encore préservée, intacte. Et même le tourisme, les touristes préservent, effectivement, respectent ces lieux-là. Il n'y a pas de tourisme de masse. Hein, donc ce sont des gens qui sont amoureux de la nature. Donc,
Puis c'est quand même une route qui est difficile d'accès. Donc effectivement, ça s'adresse à des gens qui ont envie d'aller découvrir quelque chose d'un peu inaccessible, où il faut prendre aussi le temps de vivre, parce que la route est quand même non plus pas très facile. Donc voilà, c'est le bon côté de la chose. Ouais. Et alors donc, pour finir, le coup de cœur en pays carcassonnais.
Donc le moulin de Brousse, Brousse et Villaret, donc petit village de la montagne noire. Ce moulin est un vieux moulin qui a plusieurs... pas dire de bêtises, mais au moins 100 ans, 150 ans, si c'est pas plus.
Oh, même plus que ça, je sais plus à quelle génération de famille ils en sont, mais enfin, c'est effectivement, ça fait un bon moment que...
Ouais. Donc refait à neuf, donc très bien restauré, et puis surtout dans un petit écrin de verdure qui est magique, au bord d'une rivière, forcément. C'est un moulin. Et puis donc, le directeur, le propriétaire de ce moulin, hein, qui est Monsieur Durand, André Durand, quelqu'un d'exceptionnel, extrêmement actif pour son moulin, pour développer le tourisme dans la région. On a fait effectivement un moulin à papier, un vrai moulin à papier, à l'ancienne. Ouais. Donc les visiteurs, hormis le lieu, le site, le bâtiment, bien sûr, à voir, ont l'occasion de voir comment on faisait du papier dans le temps et même le faire.
Et ils peuvent le faire aussi.
Donc c'est une animation qui est extrêmement intéressante à tout point de vue, tout niveau, et l'accueil, bien sûr.
Et puis, bon, il organise aussi pas mal de choses. Il y a aussi bien des expos. Je ne sais pas si tu es déjà allé à la Nuit des Papivores le 14 août, voilà.
Oui.
Alors, non seulement il y a un concert, mais il y a aussi le fameux défilé de robes en papier fait par une créatrice. Ouais. Donc, c'est assez magique. Et puis, cette année, ils fêtent les 20 ans du moulin, alors de la réouverture du moulin, j'entends. Hein, le moulin à papier est passé en site touristique, donc il y a 20 ans. Donc, cette année, il y aura encore plus d'animations. Et il faut aller sur le site du moulin à papier, voir tout ce calendrier.
On y sera.
Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, on a bien voyagé. C'était sympathique.
Avec plaisir.
Chers auditeurs, le mois prochain, vous retrouverez Thérèse et Christian Caverivière du domaine La Lauze à Mons. Alors Mons, petit village à 10 km de Carcassonne, dans le Val de Dagne. Et donc, ils nous feront partager leur passion pour le vin, leur passion pour ce petit village historique avec ce très beau pont roman, puis également un sentier en pédographique dont vous verrez, bien, on découvrira plein de bonnes choses. Belle et bonne soirée à vous tous et à bientôt.